10h dans le bureau de Par Jupiter.
Voilà les cafés. Non mais ne me remerciez pas, hein.
Eh bien merci, Charline.
Ok, ambiance. Bon, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est Juliette, elle est chiante.
Ouais, alors Guillaume est énervant, Juliette est chiante. Là, on est tous d'accord. Bon, maintenant, l'émission.
Avec Cécile Maître-Chabrol, j'ai lu son livre.
Gnagnagnagna, chiante et lèche-botte en plus.
Hein? Qui ça? L'invité? Ah bah tu peux pas savoir, tu l'as pas lu.
Juju, toi aussi t'as relevé ce qu'elle dit sur les plateaux de tournage de Chabrol. On dirait nous, tu trouves pas?
Ah bon? Il y avait un type avec un micro qui pense qu'il a inventé l'eau chaude.
Eh, c'est moi ça. Attention, hein. Attention.
Attends, ils avaient l'air de se marrer, écoute. On avait une sorte de petite entreprise familiale cinématographique. On était sans doute enviés.
Ouais, et... attends, sauf que, pardon, mais on n'est pas une famille, nous. Eh ben, c'est tant mieux, tu vois, ok?
Ah ouais, Noël ouais. Avec Guillaume, avec sa dinde en tofu, ah bah merci bien.
Ouais, super.
Et alors, elle poursuit, tu vois, elle dit, on devait sûrement être pénible à aimer ce qu'on faisait, à s'amuser en le faisant et payer en plus de ça.
Ouais, bah pénible, ouais, pénible, c'est le deuxième prénom de Juliette.
Ah, mais Guillaume, tu m'écoutes pas. Et payer en plus de ça, c'est tout nous, ça, c'est hashtag ma redevance.
Non mais c'est vrai que moi je m'amuse, hein. Surtout quand Guillaume se fait mal.
Ah ouais, bah j'ai même rien senti du tout, tu vois.
Bon bah vous voyez là, bah voilà, là on a une vraie famille.
Hein, bah quoi hein?
Et quand les frères et sœurs ils disputent, qu'est-ce qu'elle fait maman?
Bah je sais pas, quoi.
Elle renvoie chacun à son bureau, au boulot.
Payé pour se marrer.
Pour se faire engueuler, ouais.
Bonjour la France Inter et bienvenue chez les petits magiciens de votre redevance. Voici la devise, le souvenir, c'est la présence invisible d'Anne Hidalgo dans les sondages.
Oh non.
Voici le sommaire, le climat politique tendu et les incertitudes de la campagne présidentielle créent une pathologie chez certaines personnes, une pathologie appelée politico-anxiété. J'espère donc que cette émission vous permettra de lutter contre cette anxiété.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin.
Relayé par les réseaux sociaux, le ras-le-bol généralisé des techniciens du cinéma américain concernant leurs conditions de travail risque d'aboutir à une grève historique si les négociations avec les grands studios n'aboutissent pas. Ah, je crois qu'on a un off du patron de la Warner.
Vous faites comme d'habitude. Vous promettez tout et moi je ne donne rien.
Le cinéma est tourné vers le jeune, mais le jeune est-il encore tourné vers le cinéma? Oui, mais différemment, nous apprend une enquête de Télérama qui a sondé les goûts et les habitudes des 15-30 ans qui regardent davantage de films à la maison, puisque...
La télévision est un cinéma où l'on peut aller en restant chez soi.
Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Et en l'honneur de notre invité, une équipe toute chabrolienne. De lui, on attend chaque semaine l'étude de mœurs de la jeunesse en province, étude qu'il mène à travers celle de son neveu Doudoune. Voici Jamil Le Schlag. Bonjour,
bonjour
Jamil.
Bonjour tout le monde.
Vous allez nous parler de quoi?
D'éducation positive.
Avec Doudoune?
Un peu.
Cool. Ensuite, s'il devait réaliser un film, et ça devrait venir, hein, le gars est multipass, il mettrait évidemment le boucher dans le rôle de l'assassin,
oui.
Guillaume Meurice.
Vous avez spoilé un peu mon prochain film. J'ai contacté un prêtre aujourd'hui, figurez-vous. Un prêtre qui a commencé une grève de la faim pour défendre les réfugiés à Calais. Et il était bien content que je l'appelle.
Alors, vive France Inter.
Vive France Inter. C'est pas tous les jours qu'un catholique dit ça. Hein. Hashtag Frédéric Fromet.
Enfin, comme Claude Chabrol, il a passé plus de temps sur un plateau de cinéma que n'importe où ailleurs. Et c'est pas ces femmes qui vous diront le contraire. Hippolyte Girardot.
Bon,
bonjour Hippolyte.
Salut, salut. Comment ça va?
Vous-même?
Bon, bah, très bien, très bien.
Vous allez nous parler de quoi?
Eh bien, je vais vous parler du livre, de l'invité.
Mais ah, oui.
Incroyable, je l'ai lu.
Voici celle qui va nous enjailler. Vous êtes...
Cécile Maître-Chabrol.
Allez. France Inter. Charline Van Necker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Cécile Maître-Chabrol. Vous avez été assistante réalisatrice au cinéma, scénariste aussi, parfois casteuse, en partie pour les films de Claude Chabrol. Vous êtes une enfant de la balle, dans une famille un peu bancale, on va dire, où votre maman fait office de rock. Elle est script au cinéma, donc absente au gré des tournages. Votre père, François Maître, est un acteur très connu. Il a notamment joué dans les Brigades du Tigre, ce qui le rend extrêmement populaire. Il est bipolaire. bipolaire, ce qui lui vaut des séjours en hôpital psychiatrique. Vous vous êtes envoyé en pension, vous avez une enfance qui n'est pas de tout repos. Et puis, vous grandissez avec Claude Chabrol pour beau-père et puis comme père, puisqu'il vous a adopté. Vous avez écrit un récit qui s'intitule « Torremolinos », paru chez Jean-Claude Lattès. Un récit de cette famille, de votre travail au cinéma, du Chabrol intime. Et alors, tous les personnages, quasiment tous les personnages gardent leur vrai nom. Même Claude qui est appelé Henri, mais c'était son deuxième prénom, il était appelé comme ça dans l'intimité, si j'ai
compris. Non, pas du tout.
Ah, c'est pas ça? D'accord.
Non, si, c'est son deuxième prénom. Non, c'est son deuxième prénom, mais on l'appelait pas comme ça.
Alors voilà, il y a Claude qui est Henri, il y a votre fils aussi qui n'a pas son prénom. Hein. Et vous, c'est pas Cécile qui parle, c'est Zélie.
Ouais.
Alors pourquoi ces trois personnages-là, et surtout Zélie, pourquoi avoir choisi un double?
Je crois que c'est mon côté Alain Delon, c'est de parler de moi à la troisième personne. Non, je crois que c'est arrivé par hasard un peu tout ça. Je me suis pas réveillée un matin en me disant je vais écrire un livre sur moi, ça va être merveilleux, tout ça. Je suis un peu mégalo, mais pas trop. Et du coup, j'ai commencé à écrire comme si c'était pas moi, quoi, en fait. Aussi, le truc, c'est que j'ai toujours vu tous ces gens-là qui m'entouraient comme des personnages, pas tellement comme mes parents. C'était un peu bizarre, peut-être, l'autonomie que m'a donnée ma mère en m'apprenant très vite à lire et à écrire et tout ça. J'entends les gens, on leur dit l'enfance, le paradis perdu de l'enfance, l'enfance, la souciance et tout ça. Moi, j'ai l'impression que j'avais pas eu tellement d'enfance, mais pas du tout pour dire qu'elle était malheureuse. J'étais pas du tout malheureuse. Vous avez dit pension, j'étais pas vraiment en pension. J'étais dans un collège pour garçons, entouré de garçons. J'adorais ça. Chez ma marraine qui était un peu raide, mais tout ça était assez joyeux. Mais du coup, il y a une espèce peut-être aussi d'illégitimité un peu comme ça à se dire, j'ai servi la soupe beaucoup. Maintenant, c'est moi, mais je vais me servir un peu d'un double, quoi.
Vous avez regardé votre vie, votre famille, etc., un peu comme un théâtre.
Exactement,
vous
comme
avez
un théâtre.
Ouais.
Oui, voilà. Comme un théâtre. Bon, bien sûr, le fait que mon père soit sur scène, c'est très spécial d'être fille d'acteur. Enfin, je regarde Hippolyte, du coup, pour avoir.
Moi,
t'as des enfants. Vous avez des enfants.
C'est voilà,
c'est
le petit monde du cinéma, bien sûr. Et effectivement, alors,
jaloux.
Je vais donner un exemple. Non, je vous envie pas du tout. Vraiment.
Ah bon,
ça a l'air galère. Vous racontez un jour que François, votre papa, vous emmène à Saint-Lunaire dans l'église. Et vous regardez des tableaux avec Jésus et vous dites, trop maigre quand même. Genre, on mangeait pas à sa faim dans ce temps-là, se dit Zélie. Voyons voir ce qu'il arrive à ce pauvre garçon. Et puis, au fil des tableaux, Jésus chute. Votre père dit voilà, là il chute pour la troisième fois. Et là Zélie dit, mais c'est pas vrai, il fait qu'à tomber ce con-là. Réplique Zélie. Et du point de vue de Zélie, la foi s'est arrêtée ce jour-là dans cette église. La religion pour elle serait à jamais liée à la chute répétée d'un type à poil, pauvre, maigre et chevelu. Ça donne un peu le ton du livre pour vous dire comment Cécile Mestre Chabrol décrit la vie. Et là, il y a comme une espèce de métaphore. Vous regardez la vie de Jésus comme vous regardez votre vie et la vie de ceux qui vous entourent avec beaucoup de recul et de détachement.
C'est les hauts et les bas, oui. C'est pour ça aussi que ça s'appelle Torremolinos, mais c'est l'idée de que la roue tourne. Il y a des moments merveilleux dans cette vie-là. Il y a des moments plus difficiles. Être fille d'eux, c'est sympa, mais c'est pas que sympa non plus. Il y a l'idée de l'a priori, du préjugement tout le temps. On n'est jamais une feuille blanche. Alors après, on va dire, oh là là, mais oui, mais c'est pas très grave. Tu vois, il y a pire, il y a la guerre au Yémen. Il y a des enfants qui se font violer par des prêtres, tout ça. Oui, d'accord, mais bon, à chacun sa merde ou ses problèmes. Enfin, je sais pas comment on dit, mais...
Juliette ?
Mais parce que ça tourne quand même beaucoup autour de ça, le récit, la recherche constante d'identité. À un moment, vous écrivez même, j'ai toujours voulu être quelqu'un d'autre.
Ouais.
Un enfant au Yémen,
par exemple. Un enfant avec un prêtre.
Non, mais on peut le comprendre. C'est vrai qu'entre le personnage de votre mère, celui de votre beau-père et celui de votre père, ça doit être plus compliqué que quand on a des personnes haut en couleur autour de soi, c'est plus compliqué de se trouver. Et on sent que c'est une chose qui revient constamment.
Ouais, alors moi, j'ai pas le sentiment c'est pas du tout une thérapie, livre, hein. L'idée, c'est que c'est pas tellement l'idée de se mettre à l'auteur, parce que moi j'ai heureusement hérité, ou je sais pas comment ça s'appelle, d'une nature assez frondeuse, et voilà, j'ai jamais eu ma langue, j'ai jamais eu tellement le problème d'exister, c'est pas tellement moi qui avait le problème, c'est plutôt par rapport aux autres au fond. Et donc tant que ça fonctionne, tant que ça kiffe, tant que ça va, ça va. J'avais ma place, quoi. La difficulté était quand Claude est mort et que tout d'un coup, tout ça s'est arrêté d'un coup brutalement, le rideau s'est fermé. Et là, tout d'un coup, coup, toutes ces questions, elles sont revenues, d'autant qu'ils venaient de m'adopter, d'autant que un coup on m'appelle Maître, un coup on m'appelle Chabrol, un coup on m'appelle Maître Chabrol. Je me dis, oh là là, j'ai voulu ce nom très long, très grand, j'ai l'impression d'être femme sandwich, à dire, oh, regardez, je suis la fille de Claude Chabrol, alors qu'en fait, je m'en fous d'être la fille de Claude Chabrol, en réalité. Je veux dire, en plus, il est mort il y a 11 ans, quoi. Donc, je suis pas la fille de Claude Chabrol, je suis Cécile, en fait. Si tant est que ça ait un intérêt après d'être Cécile. Alors, d'où le truc d'écrire et d'écrire d'abord, bah, d'abord mon père qui était bipolaire, effectivement, et qui était un personnage ahurissant et qui faisait des trucs, comme il était acteur et bipolaire, je savais jamais s'il était, malade, fou, malade et fou.
Ah, mais c'est ça, Hippolyte, en fait.
Exactement. D'accord. Guillaume, okay. J'aime bien quand tu suis. Allez,
c'est pour ça que vous m'avez filé la chronique. D'accord, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Non, mais c'est vrai, c'était difficile. Mon père, par exemple, il tombait. Je lui disais, papa, t'es pas très bien tombé. Il se relevait, il retombait, quoi. Donc,
c'est comme Jésus au début du livre, j'ai l'impression. Bah, voilà, ouais, voilà, la boucle est bouclée. Cécile Maître Chabrol avec nous. Son récit s'intitule Torremolinos et c'est paru chez Jean-Claude Lattès.
Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single, ain't worry about a ring on my finger, so you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, set me down in the salon chair. In a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes, we just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes, we just keep it pushing like aye, aye, aye. Why I'm in gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face.
Sur France Inter, par Jupiter, en compagnie de Cécile Maître Chabrol et pour l'entourer, Juliette.
De braves gentilshommes, Hippolyte Girardot, Jamie oui. Schlag et ce manant, ce manant de Guillaume Meurice.
Très bien. Je voulais être avec les gentilshommes.
C'est le temps d'un journal, oui. Allez.
Emmanuel Macron va jouer exactement. Avec le variété Club
latéral
de France.
Gauche avec le numéro 3.
Voilà. Latéral gauche.
Eh oui, il est arrière gauche.
Hein? Habituellement, il joue latéral gauche. Il m'a dit, je veux jouer milieu terrain défensif. Franchement, j'ai pas d'inquiétude.
Le journal de presque 17h17.
Allez, Macron, Macron. Il va venir lui faire préliminaire.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera de la campagne de Michel Barnier.
Oh là là là, le débordement sur l'aile droite.
Qu'est-ce que vous faites là?
Ah pardon, parce que je regarde le match de foot d'Emmanuel Macron en même temps avec le Variété Club
oui,
de France.
Vous aussi, d'accord. Ouais, non mais concentrez-vous. Ouais, ouais. On parlera aussi des propos de Jean-Michel Blanquer sur le wokisme.
Oh, l'extrême droite. L'extrême droite du poteau.
Et enfin, on parlera d'Éric Ciotti.
Ah, c'est le hors-jeu. Et on commence par la politique.
Oui, invité de Sud Radio, Éric Ciotti a réaffirmé sa fierté de ne pas avoir voté Macron en 2017 pour faire barrage à l'extrême droite.
Est-ce que vous connaissez la technique pour connaître la date de naissance d'Éric Ciotti?
Non.
Eh bien, vous prenez la date de naissance de la honte et vous savez qu'Éric Ciotti, il est né bien avant. Petite astuce.
Hier, Jordan Bardella était interrogé sur LCI à propos du travail de la police.
Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable. Un travail admirable.
Heureusement que Freud était autrichien. Ça rattrape un petit peu le lapsus.
Hier, lors du Conseil des ministres, le président a recadré ses ministres et fustigé le narcissisme des petites différences.
Alors, attendez voir. C'est Emmanuel Macron qui critique le narcissisme des autres?
Ouais.
D'accord. On dirait Gérard Depardieu qui nous dit qu'on boit trop, quoi. Voilà.
Dans le journal Le Monde, Jean-Michel Blanquer a déclaré la France et sa jeunesse doivent échapper à l'idéologie woke.
Alors lui, depuis qu'il est plus ministre de l'Éducation nationale, il a du temps pour s'occuper des sujets qui lui tiennent à cœur.
Il est encore ministre de l'Éducation nationale.
Ah bon ?
Bah oui.
Vous êtes sûr de ça ?
Ouais.
Mais du coup, les conneries qu'il raconte, il fait ça quoi sur son temps libre en fait ? Le bullshit, c'est ses loisirs.
Sans doute.
D'accord.
Et alors, dans Paris Match, Michel Barnier lui a déclaré : on ne peut pas devenir président de la République sans aimer les Arabes.
Ah, alors là, ça c'est beau. C'est une belle unité. C'est vraiment l'homme qu'il nous faut.
Attendez, excusez-moi. Pardon, j'ai mal lu.
Ah bon ?
Oui, j'ai mal lu.
Non, ça vraiment justement.
On ne peut pas devenir président de la République sans aimer les arbres.
Ah, d'accord. Oui, ça change pas mal de choses, oui. Bon, en tout cas, c'est une belle interview langue de bois.
Ah, ça, c'est nul, ça, Guillaume.
Par rapport aux arbres. Non. Il va être invité par Gilles Boulot.
Non, ça, c'est nul aussi.
Sinon, j'avais un truc avec Français de souche.
Non, mais on va enchaîner plutôt.
Comme c'est les arbres.
D'accord. Ouais. Allez, on enchaîne.
Bon, bah,
politique
alors.
Toujours, enfin.
Oui.
Politique, entre guillemets. Nicolas Dupont-Aignan a été condamné par le bureau de l'Assemblée nationale pour fraude au scrutin. Il avait voté sur le boîtier d'un autre député de son parti Debout la France.
Ouais, c'est dingue, cette histoire. Ça, j'en reviens pas.
Grave de frauder un scrutin à l'Assemblée.
Non, c'est dingue qu'il y ait deux députés Debout la France à l'Assemblée.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a quelque part dans ce pays des gens qui ont voté
pour deux
députés.
Et pendant ce temps, le Sénat a rejeté la proposition du groupe socialiste de rendre la vaccination obligatoire.
Le groupe socialiste au Sénat, c'est comme les Belges en foot, quoi. Ils savent qu'ils vont perdre, mais ils y vont quand même.
Alors, celle-là était-elle bien nécessaire, Guillaume ?
Je pense que oui, Charline. Je l'aimais bien.
On enchaîne. Présidentielle 2022 pour Lamia El Arraje. Une fois Anne Hidalgo investie, une machine de guerre va se mettre en route.
Oui, une machine de guerre va se mettre en route, mais à 30 km/h. Donc on aura le temps, a priori, de la voir venir, la machine.
Science maintenant, un mystérieux signal radio dirigé vers la Voie lactée inquiète les scientifiques.
Oui, j'ai vu ça. Et alors, en fait, c'est déjà arrivé ça.
Ah oui ?
Oui, alors, hier, un mystérieux signal radio a inquiété nos auditeurs.
Ah bon ?
Il est 7h21 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste du Figaro, responsable du Figaro Vox, Alexandre Devecchio. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Voilà, on n'a pas plus d'informations sur ce que cette personne fait, mais les scientifiques sont sur le
D'accord,
coup. C'est inquiétant.
Et alors,
très inquiétant.
Musique pour terminer. Oui. Le chanteur R. Kelly a été reconnu coupable de trafic sexuel, ce qui a eu pour conséquence sur la vente de ses albums.
Une baisse, ouais. Forcément, les gens ne peuvent pas cautionner.
Là, je vais finir, Guillaume.
Ah, pardon.
Ce qui a eu pour conséquence sur la vente de ses albums, une augmentation de 517%.
Ah, une augmentation de la carte. Et on a les chiffres pour l'album des prêtres ?
Non. Et voilà.
D'accord.
Merci Guillaume Meurice.
Oui,
17h25 sur France Inter et partout ailleurs. Sur d'autres radios aussi.
Sur ce fuseau horaire.
Mais
en tout
chez
cas,
nous, c'est très précis.
C'est
Cécile Mestre Chabrol. On va aborder le premier sujet avec vous. C'est le climat de la campagne présidentielle qui angoisse une partie de la population. Non seulement parce que l'actualité est saturée d'extrême droite, mais aussi parce que depuis le confinement, la population a pu mesurer que certaines décisions politiques avaient un impact assez direct et assez immédiat sur leur quotidien. L'enjeu de 2022 crée un stress, ajouté à celui de l'actualité, ça porte un nom, la politico-anxiété. Et ça, ils savent en jouer sur les chaînes de télé.
Voyons voir, les températures mondiales augmentent d'un quart de degré, les météorologues s'alarment, barbant. La Chine pourrait dominer le monde économique dans les 10 ans à venir. Au rebut.
Une autre idée ?
Et si on passait un porno à la place des infos ?
Freddy.
Non, il n'est pas question de ça.
Je sais, mais si on faisait venir des dompteurs d'animaux qui feraient faire des numéros de chats, des numéros de chats sauvages, comme par exemple avec des tigres dangereux, des lions, des léopards,
génial.
Et tout le tintouin, on les lâche tous dans le studio avec une bonne douzaine de poulets, on balance du rock à fond, et l'émission s'appelle « Sortez vos tripes ».
Je regarderai, moi.
Oui, je regarderai.
Tu décris la décadence de la civilisation. C'est pas de l'info.
Freddy, c'est bon. On se fait un brainstorming. On réfléchit à la façon de rendre l'actualité moins emmerdante et tu réagis comme si on pissait dans ton milkshake.
Extrait de Anchorman 2, le film d'Adam McKay. C'est un article paru il y a 3 jours sur Slate qui explique donc que la campagne présidentielle crée une énorme anxiété. Ça s'est vu aussi aux États-Unis à la veille de l'élection de Joe Biden. Quand je dis à la veille, c'est plusieurs mois avant, donc c'est comme maintenant. J'ai cru comprendre que vous étiez pas très actu ou un peu frileuse vis-à-vis de l'actualité. Votre récit, Torremolinos, votre livre, il prouve que vous avez quand même une grosse capacité à la prise de recul et à l'esprit critique. Vous y parvenez parfois dans la vie, mais c'est plus difficile vis-à-vis de l'actualité.
Je suis pas frileuse, je suis j'ai l'air d'un être humain, mais en fait je suis une grosse éponge. Je suis un gros truc très empathique et très bon, très empathique, quoi. Du coup, tout rentre en fait ça rentre. Alors, ça rentre partout. Et du coup, je trouve que l'actualité, je parle de l'actualité politique, pas de l'actualité culturelle, tout ça. Il y a une différence. Mais en tout cas, cette espèce d'actualité, de façon de la traiter, cette espèce d'info en continu tout le temps. Moi, j'ai l'impression d'être brassée dans une machine à laver, de pas avoir le temps, de pas savoir, de pas comprendre. Dès qu'on dit un mot, on dit par exemple les migrants. Pour moi, ça veut rien dire. Je comprends pas ce que ça veut dire. Les femmes, les hommes, les jeunes, les chiens. Je sais pas, enfin, je veux dire, tout ça, j'arrive pas à
La généralisation, donc, la massification. Ouais. Comme quand on dit les médias.
Tout ces laits, quoi. Ces espèces de, je comprends pas, et du coup je comprends que ça provoque de l'anxiété. Je suis pas sûre que l'actualité soit bonne pour la santé. Je pense que c'est
bah, alors évidemment nous, ici, on est malade, hein.
Non mais vous faites je vais faire ma lèche-botte, non mais vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous l'attrapez, vous la tordez, vous en faites quelque chose, vous la transformez. Il y a du travail, je veux dire, c'est pas immédiat,
c'est
moins, pas vous faites un truc
triture.
Aussi qui est et puis vous faites un truc qui est de la résistance, c'est-à-dire qu'on rigole, donc on oublie un peu que c'est machin. Mais je veux dire, Samuel Paty, 6h45, qui est décapité. Moi, à 6h50, j'ai envie de me recoucher, quoi. C'est horrible, non ?
À quelle occasion vous parlez d'actualité ? Parce que vous avez une conscience politique, conscience politique assez ancrée aussi, etc. Donc l'actu, j'imagine que parfois, l'actu culturelle, par exemple.
Non, l'actu culturelle, je la commente pas. Enfin, voilà, non, mais tout, enfin, je vais pas vous dire que tout m'indigne, mais beaucoup de choses m'indignent, Enfin, je trouve que c'est, alors, pour le coup, l'indignation, je pense que c'est meilleur pour la santé.
Oui.
Que la résignation, j'ai l'impression que cette espèce de masse d'informations.
C'est une hygiène de vie, l'indignation.
Ouais, je trouve l'indignation et de rester réveillé. Mais le truc, c'est que il y a tellement de trucs que,
on comprend bien, on est tous dans cette
tessoreuse
et les médias ont responsabilité.
C'était Corinne Charby, la chanson.
Corinne Charby, voilà.
C'est bien le peur. Voilà. J'aime bien l'idée de finir ce sujet sur Corinne Charby. C'est cool, ça détend. Et donc, rions avec l'actu, détendons-nous avec aujourd'hui Jamil Lochlag.
Eh les gars, c'est incroyable. Cette semaine, il y a un jeune qui a pris 5 mois de prison avec sursis pour avoir bousculé sa prof. Vous vous rendez compte, 5 mois seulement? Mais méritez beaucoup plus! Depuis quand on bouscule sa prof? Moi, je suis toujours du côté du corps enseignant. Ah bah, je suis pas fou, hein. Par Jupiter, 1 million d'auditeurs, 3 millions de profs. Malinx, le schlag! Tout ça, c'est à cause de l'éducation positive. On ne dit pas non à l'enfant, on le laisse s'exprimer, faut lui donner confiance. Bah voilà le résultat! On leur a donné tellement confiance qu'ils confondent cours de techno et kung-fu. Perso, j'ai grandi à l'ancienne, en Auvergne, au milieu des loubards. Et plus jeune, j'avais fait des conneries. Du coup, ils m'ont foutu en pension au Maillet de Montagne. L'enfer sur terre. Coincé entre le Puy de Dôme et la montagne bourbonnaise. J'accédais à la classe en rappel. Cliff Hunger. Mais au moins, il y avait de la discipline. Il y avait une présentation. Tu sais, je suis rentré là-bas, survêt, casquette, ma cité va craquer. Je suis ressorti, blouse, encrier, soulier. Voilà, un choriste. Vois sur ton chemin, Kaira oubliée, égarée. Ah, mais ils ont pu me remettre sur le droit chemin parce que les parents étaient du côté de l'équipe éducative. Mais tout ça, c'est fini. L'autre jour, j'étais à une réunion parents-prof et il y a une maman qui a pris la parole. Bonjour, je suis la maman de Maxence qui est haut potentiel, hypersensible. Donc les punitions, no way, ça marche pas sur lui, ok ? Manque de bol, elle a dit ça à la prof d'allemand. Ah, enfin, c'est Angela Merkel, c'est la rigueur. Elle lui a répondu, votre fils est nul, scheiße ! Il retarde le reste du groupe. Il ne peut pas rester dans notre union scolaire. En 2 secondes, son fils, c'est devenu la Grèce. Wouh !
Roux, Van, Schengen, Europe des 6, Benelux. Et puis, c'est quoi? C'est quoi cette histoire de haut potentiel hyperactif, là? Bah attends, t'as 9 ans, tu tiens pas en place, t'écoutes rien en classe. À mon époque, le diagnostic était plus simple. Ben cet enfant est con en fait. Le CPE, il est arrivé vers toi. Salut Kevin, ça va? 6 x 4? Bon, laisse tomber, t'as quel âge? 9 ans, fais voir tes mains. Bah t'as des mains de maçon. Tu sais c'est quoi une truelle? Orientation express. Ah oui, alors il y a un nouveau truc, hein. Bah vous êtes pas au courant? Apparemment, on met plus de notes aux enfants non plus. Il paraît que ça sert à rien et que ça reflète pas le niveau. Bah fallait le dire plus tôt, non? On s'est cassé la tête à essayer d'atteindre des 4,5 sur 20 en mathématiques. On me disait que j'étais trop nul, alors que non, Madame Thierry, non, j'étais pas nul, j'étais en réalité un astrophysicien. Mais vous avez pas su capter mon génie, Madame Thierry. Normalement, à l'heure qu'il est, je devrais être dans l'espace avec mes gars sûrs, Elon Musk, Jeff Bezos, le capitaine Kirk, en train de flotter comme ça, dans la Voie lactée, à vouloir conquérir Vénus. À la place, je suis dans l'émission par Jupiter. Wouh, Van Galactique. Toutes ces histoires, c'est la faute des parents. J'ai un neveu doudoune. Ah déjà, c'est pas une lumière, mais il y a pire. Son petit frère Yacine, 4 ans. Mais qu'il est con. Non mais sérieux. À son âge, moi j'étais trilingue, je parlais français, arabe, berbère. J'avais même des notions de patois bourbonnais. Et lui, il vient me voir l'autre jour pour me raconter sa journée. Toboggan, voiture. Ben, on comprend que dalle. On se croirait sur Énergie 12. Structure ton propos, mon grand. La dialectique, ça te dit quelque chose? Merci de m'avoir écouté, c'était Jamil.
Magnifique dialectique de Jamil Le Schlag. Merci beaucoup, Jamil.
Merci.
Je vous mets 19 sur 20. Voilà.
C'est ce qui est correct.
Oh, correct.
Quand je ne sais plus.
C'est Yelly, Yelly, qu'on aime beaucoup dans cette émission avec Liberté. C'est sur la playlist France Inter. Cécile Mestre-Chabrol est notre invitée. Elle publie un livre intitulé Torremolinos, paru chez Jean-Claude Lattès. Juliette, vous avez une question pour Cécile?
Oui. À un moment dans excusez-moi, j'étais un petit peu perdue. À un moment dans le dans votre récit, vous dites en parlant de la manière dont Mao, votre maman, et Claude Chabrol parlent et vous éduquent, vous dites cette phrase: nous, chez nous, on se méfie de l'émotion. Ce que je comprends comme méthode éducative, mais est-ce que avec ce livre Torremolinos, c'est vous prenez pas une petite revanche sur sur ça? Parce que c'est un livre où vous explorez beaucoup d'émotions. Et vous le faites bien d'ailleurs, vous le faites même très bien.
Bah, quand je dis chez nous, on se méfie de l'émotion, c'est chez nous, on se méfie. Mais moi, j'étais pas tout à fait de ce beurre-là, j'allais dire, je sais pas pourquoi beurre vient, mais... Non, mais j'étais pas tout à fait de ce... N'importe quoi, le beurre.
Donc, oui.
Non, j'étais pas tout à fait de ce bois-là, c'est, je pense...
Bois et beurre, donc.
Je me souviens, par exemple, Henri, donc, qu'on appelait Chacha, impossible d'écrire un récit en mettant Chacha à tout bout de champ, il détestait, par exemple, au restaurant, c'était dégueulasse, dire que c'était dégueulasse, ou ce genre de truc, il détestait le conflit, tout ça. Et un jour, je lui dis, mais au fond, pourquoi moi, je devrais faire comme toi, parce que toi, tu fais ça, mais... Il m'a dit, mais moi, c'est ma nature. Je lui dis, mais donc, je suis pas obligée de faire pareil. C'est-à-dire que il y avait un truc, bon, j'ai botté en touche sur l'émotion, mais...
Mais non, ça c'est pas vu.
Non,
ça
c'est pas vu du tout. C'est le beurre qui m'a. J'ai glissé sur la plaquette de beurre, mais non, mais je veux dire, il y avait pas non plus une imposition, mais c'est vrai que comment je peux expliquer ça? L'émotion, le sentimentalisme, tout ça, le romantisme, il détestait les romantiques, par exemple. Tout ça, il conchiait même. C'était. Et moi, c'est vrai que bon, en même temps, j'aimais bien ça, cet exemple, parce que je voyais bien comme ça me faisait du bien. Sa façon de vivre et sa philosophie. Mais au fond de moi, je pense que je suis un petit peu différente de ça. Ouais, un petit peu différente de ça. Mais
elles font comme du beurre des fois.
Et c'est des
Elle met pas de bois. On va vous entendre d'ailleurs à propos du récit de Cécile Hippolyte Girardot. En attendant, voici Guillaume Meurice.
Oui, je vais vous parler de l'Église catholique aujourd'hui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est un petit peu dans l'actu, l'Église catholique. Oui. Hein, ils ont suivi à la lettre l'ange Gabriel Matzneff. Mais loin de moi l'idée de faire des amalgames. Tous les cathos ne sont pas pédophiles, tous les musulmans ne sont pas terroristes, tous les gens qui se droguent ne sont pas chroniqueurs sur France Inter. Et pour vous le prouver, j'ai appelé le père Philippe Demester. Il est prêtre à Calais et il a entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions de vie des réfugiés. Alors, je vous rappelle que Gérald Darmanin, donc le saint patron des policiers et des agents immobiliers pris à pic, envoie tous les jours les flics défoncer les tentes aux cutters et gazer des demandeurs d'asile. Hein, c'est un petit peu l'ambiance Camping Paradise, mais présentée par Brice Hortefeux, si vous voulez. Donc, écoutons le père Philippe qui nous parle du sort réservé donc aux réfugiés.
C'est de la maltraitance, vraiment physique. On fait tout pour que, à un moment dégoûté par la vie qu'on leur réserve, bien ils aient l'intelligence de se dire vraiment c'est trop pourri ici, on fout le camp.
Bon. Je croyais qu'on était le pays des droits de l'homme.
Écoutez, en tant que curé, j'entends régulièrement des couples qui se déclarent une fidélité pour la vie. Bon, après nos déclarations, comment on les vit?
Oui, alors, oui, c'est vrai qu'il y a, voilà. Oui, oui, il y a les paroles et les actes, hein, comme on dit, voilà, en mariage, c'est pareil. Mais bon, on a déjà parlé des femmes d'Hippolyte, je vais pas insister là-dessus.
Merde,
pas parler de la vie privée des gens. On fait tous comme ça des déclarations. Voilà, Macron, il avait dit que plus personne ne dormirait dehors et qu'il y aurait des frites à la cantine. Bon, ben voilà. Voilà, c'est comme les vœux de fidélité, c'est bien ça?
Tout à fait, les fidélités. Bon, voilà. Bon,
c'est comme si la France avait trompé son mariage avec les droits humains, quoi.
Ça, j'aurais pas osé cette image-là, mais tout à fait.
C'est ça. Ça fait un moment qu'on sait, de toute façon, qu'on est cocu. Hein, ça, on ne tombe pas des nues non plus. On a même failli élire DSK. On est un peuple comme ça, hein, qui aime bien porter des cornes, comme les chèvres qui sont des ongulés. Hein, ça, je l'ai déjà dit. Mais on peut dire que le peuple français est un peuple quand même de gros ongulés. Mais parlons, si vous le voyez bien, plutôt de Dieu. Avec le père Philippe, qu'est-ce qu'il fout, Dieu?
Dieu, il n'est pas là pour faire les choses à notre place.
S'il est tout puissant, il pourrait quand même faire un petit effort.
Non, mais cette toute-puissance, je veux dire, on ne cesse pas de répéter que c'est la toute-puissance qui est celle de l'amour.
Ah oui, c'est ça. Oui, alors ça, je sais. Mais alors, il y a un problème avec le mot amour. Parce que la police, par exemple, elle a l'amour, mais des coups de tonfa dans les gencives. Vous voyez, c'est ça. En fait, ça dépend où on place l'amour. Et je veux pas créer de polémique comme Philippe Poutou, hein, qui a dit ce matin que la police tue, ce qui est faux. Bien sûr, on le sait. Je vous rappelle que selon l'IGPN, le jeune Steve à Nantes participait à un concours d'apnée et que Cédric Chouviat n'avait pas dit, Jacques a dit, arrêtez de m'étouffer. Donc c'est normal que la droite s'offusque. La droite, je vous rappelle, ce sont ces gens comme Zemmour qui se réfèrent en permanence aux racines chrétiennes de la France, mais qui laissent crever leur prochain.
Pour eux, c'est un discours, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est devenu culturel, voilà, qui est devenu mondain.
Vous arrivez à pardonner et à aimer quelqu'un comme Zemmour?
C'est pas à pardonner, mais enfin, je veux dire, je peux avoir que de la sympathie pour aussi ce mec-là, bon, parce que, bon, je veux dire, en même temps que pour moi, je trouve que c'est à vomir, mais en même temps, je l'aime bien.
Le père Philippe, il est ceinture noire en amour, hein. Je vous dis tout de suite, voilà, il est capable d'aimer ce qui est à vomir, le père Philippe, il est capable d'aimer le psoriasis parce que c'est une création de Dieu. Voilà, il est comme ça, c'est vrai que Dieu, il est facétieux, il a créé l'abbé Pierre et Gérald Darmanin. Ben oui, c'est vrai que, bon, ça va, je veux pas revenir sur Darmanin tout le temps, mais si, quand même, parlons de Darmanin.
Je veux dire, quelle est la pauvreté qui se traduit aussi à travers tout ce qu'il dit? Mon Dieu, des personnes qui se prétendent intelligentes, à quoi rêvent-ils?
Donc on a plus de preuves de l'existence de Dieu que de l'intelligence de Darmanin.
Non, le problème, c'est pas l'intelligence de Monsieur Darmanin, mais c'est ce à quoi il l'applique.
Oui, on a un problème à ce niveau-là. Voilà, à quoi il applique son intelligence, par exemple, à faire barrage à l'extrême droite en appliquant le programme de l'extrême droite. Vous voyez, Darmanin, c'est un petit peu Jean Moulin, mais dans un panzer. Vous voyez, pour prendre une image. Vous l'avez ou pas? Non, je vous sens sceptique. Vous avez donc la question. Revenons sur l'intelligence de Darmanin.
Cette intelligence qui est détournée, qui est... Voilà.
C'est pas qu'il est stupide, c'est qu'il a une intelligence détournée, quoi.
Voilà,
c'est ça. Voilà. Pour résumer, il a une intelligence détournée, il a une bienveillance déformée, il a une bonté déportée. Bon, alors, les réfugiés, ben, c'est une chose, mais le gros problème avec l'action du père Philippe, c'est que la semaine prochaine, dans l'église où il fait sa grève de la faim, il y a un concert de Natacha Saint-Pierre. Alors, comment qu'on fait?
J'ignore tout de cette Natacha.
Bah, est-ce que vous pensez que votre grève de la faim sera finie d'ici là, ou est-ce que...
Bah non, c'est le 19, oui, bah non. Parce que ça m'étonnerait que nos demandes là, d'ici là aient été satisfaites.
Vous serez sur place pour le concert,
oui,
de Natacha.
On sera sur place. Et puis on sera à la meilleure place. Non seulement on n'aura pas payé, et on sera allongé pour l'écouter.
Eh ben, elle est pas belle la vie, hein. Surtout qu'on sait aujourd'hui que c'est elle, hein. C'est Natacha Saint-Pierre qui détient les clés du paradis. Saint-Pierre. Bah oui, ils ont juste enlevé le Natacha. Maintenant on le sait. Voilà. C'est comme Macron et sa clique qui ont enlevé le mot fraternité de leur vocabulaire. Moi perso, je ne le pardonnerai pas. Voilà. Hein, ils savent très bien ce qu'ils font.
Guillaume Meurice, merci.
Et merci à Philippe aussi.
Et merci Philippe, bien sûr.
Et merci à Louis Viteur. Tiens, je le signale, il est photojournaliste et il documente tout ce qui se passe à Calais en ce moment, les opérations de police, vous pouvez le suivre.
Sur Twitter,
sur
notamment.
Les réseaux sociaux.
Exactement,
ouais,
puisque c'est difficile d'avoir des photos de Calais en ce moment.
Carrément.
Vous le suivez et là, vous êtes informé.
Ouais.
Louis Viteur. Juliette, un autre thème pour Cécile Mestre-Chabrol.
Avec la pandémie, les producteurs de séries et les plateformes se sont remplis les poches. Et s'il y a eu ruissellement, c'est pas sur la tête des techniciens qui a laissé tomber. Du coup, entre ça et des conditions de travail pas franchement rigolotes, Hollywood est sous la menace d'une grève géante. Évidemment, en France, les relations avec les techniciens se passent avec infiniment plus de respect et de bienveillance.
Où est-ce qu'il est, ton Perchman? Vous êtes complètement tapé ou quoi? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Oh, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. On va le faire muer, écoutez. Oh, allez, moteur! Oh, moteur! Oh, putain, moteur! Moteur, allons-y, il pleut! Oh, merde! Tiens, on pourra pas le faire! Moteur!
Vous aurez reconnu le doux, le débonnaire, le patelin Jean-Pierre Mocky.
Dans un striptease, hein? Oui. C'est un extrait de l'émission Striptease.
Ah, c'est semble-t-il.
Ah oui, oui, l'émission. Ouais, l'émission. Ah,
mais lui, il était vraiment très
bien. Oui, mais c'est voilà, tout, hein.
Voilà,
oui,
tout à fait. Donc, il y a des articles un peu de partout, donc, de cette grève qui potentiellement va arriver. Et je vais citer le président du plus puissant syndicat, qui demande, outre un salaire décent, il dit, nos employés ont des besoins humains fondamentaux, comme des pauses repas, un sommeil suffisant et un week-end. Et c'est vrai que c'est un peu effarant. En même temps, vous avez passé une grande partie de votre vie sur des plateaux de cinéma. Alors c'est vrai que c'était ceux de Claude Chabrol, donc je suppose que c'était assez charmant.
Mais
c'est
apaisé.
Plus apaisé, mais c'est vrai que la vie des techniciens de cinéma, c'est une vie difficile. C'est des horaires très longs.
Oui, c'est une vie difficile, mais c'est une vie choisie. Les gens qui font du cinéma...
a priori, on choisit de faire ce métier-là. Les acteurs, les techniciens ont quand même choisi cette vie-là. C'est déjà pas mal. Si on regarde les gens qui travaillent, quand même, c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Après, c'est des vies difficiles, c'est pas facile pour la vie sentimentale. Il faut soit aimer avoir un homme ou une femme dans chaque port. Moi, j'avais choisi cette solution-là. Ou bien avoir
c'est le conseil que vous donnez aujourd'hui.
Oui, c'est un petit peu le conseil que je donne.
Petit tuto.
Oui, un petit tuto. Voilà, vous emmerdez pas, changez un peu, c'est sympa. Surtout jeune, quoi. Bon, après, évidemment, ça se calme. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile. Après, ce qui est compliqué vraiment, c'est la vie, quand on a des gosses, quoi. Voilà. Mais après les conditions, moi ça fait 10 ans que je suis pas sur les plateaux, mais mes copains me racontent je sais pas, il y a un truc qui s'est un peu tendu, ouais. Je trouve que surtout ce qui moi me gêne, c'est un petit peu comme à l'image du reste au fond, c'est-à-dire cette énorme différence qu'il y a entre les acteurs, alors les têtes d'affiche et puis le reste de l'équipe. Il y a trop de différences en fait, ça marche pas. Moi il y a un truc que je déteste par exemple dans le cinéma, c'est les camions-loges. Je suis pour manifester contre les camions-loges, parce que je veux dire, c'est comme si on faisait pas le même métier. Il y a tout d'un coup des vedettes dans leur camion qui d'ailleurs généralement sont chiées dans leur camion avec leur truc, leur Netflix, leur machin, nanana.
Dites-le, Hippolyte. Regardez Hippolyte quand vous dites ça.
Non, mais je veux pas.
Il y a ceux dans leur camion
et puis nous qui sommes alors voilà des petites bestioles sous un truc à fabriquer. Et puis d'un coup alors on appelle la vedette qui descend de son car-loge et qui arrive tel Macron traversant la cour.
La pyramide,
truc,
oui.
La pyramide avec ça, la grande musique, ça. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Moi,
Charline,
je trouve ça ridicule.
Oui,
mais c'est ridicule, mais ça continue après. C'est-à-dire que c'est les acteurs qu'on invite sur les plateaux de cinéma pour parler des films, alors que c'est pas eux qui, ils sont évidemment à l'affiche, mais ils sont pas plus intéressants qu'un chef-op, qu'un chef du son.
Ouais, mais ça, les chefs du son, comme vous dites, chef du son, c'est les réalisateurs aussi sont un petit peu fautifs. Bon, alors je vais pas parler de Chabrol, parce que c'est quand même celui que je connais le mieux, mais c'est vrai que lui parlait beaucoup de son équipe et mettait beaucoup son équipe en avant, ce qui n'a pas non plus tellement servi à son équipe qui n'a pas travaillé avec d'autres que lui, puisque tout le monde pensait que ces gens-là ne travaillaient moins, y compris qu'avec lui, ce qui est complètement con, faut quand même dire les choses. Mais c'est vrai qu'ils mettaient en avant les gens et les réalisateurs, on a toujours l'impression qu'ils ont fait leur film tout seuls, quoi.
Oui. Mmh.
Et que les acteurs, c'est pareil, ils ont pas de maquilleuse, de coiffeuse, de costumière, de je sais pas quoi, tout ça. Donc moi, j'aime pas tellement ça. Mais
et d'ailleurs, on le sent bien dans votre récit, vous racontez très très bien ce volet-là du cinéma et de ceux qui le fabriquent sur les plateaux. Cécile Mestre-Chabrol, un récit qu'a lu Hippolyte Girardot.
Ouais. Alors, c'est vrai, tout le monde peut pas écrire Gare et Paix, ou Madame Bovary, ou éventuellement inventer tout le monde de Dune, c'est vrai, mais en général, on écrit un peu sur soi, sa famille, son mec, son prof, sa jeunesse, sa brosse à dents, à minima. C'est à la fois très facile et pas tellement. Je parle surtout du truc sur la brosse à dents. Voilà. Alors Cécile, ici présente, a écrit ce livre sur ses parents, sa famille, son job et sur elle. Elle, dans le livre, elle a un nom, elle s'appelle Zélie, ce qui lui permet de dire Zélie fait ci, fait ça. De toute façon, dans cette famille, ça change. Les noms, ça bouge tout le temps, ça c'est assez sympa. Sa mère, Marie-Aurore, se fait appeler Mao, et dans les années 60, s'appelait Mao, moi je trouve que ça en jette. L'amoureux de sa mère, qui deviendra son père adoptif, qui s'appelle Claude, comme Claude Chabrol, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est lui, elle l'appelle Henri. Et donc, Henri, Zélie, Mao, etc. C'est un bouquin, c'est un bouquin volubile, comme un discours de bébé. C'est fourni comme une prairie de printemps, c'est dense comme une poignée d'amour. L'écriture de Cécile Mestre-Chabrol est un lacet de cuir qui tient le lecteur bien serré dans son corset précis, drôle, piquant. L'espace, évidemment, et le temps, comme d'habitude, me manquent pour vous balader dans les recoins de ces chapitres qui voient Zélie, une petite fille particulière, comme vous la dites dans la première phrase. On la voit grandir, apprendre à mentir, à découvrir, à péter, à rire, à voler, à cacher, à vivre. En fait, avec tous ces adultes, si impayables, effectivement, qu'elle côtoie. Parce que Zélie, on peut dire qu'elle a été servie en termes de géniteur, quoi. Déjà le père, qui a droit à un chapitre intitulé « Mon père en vrac », qui est une sorte de portrait chinois d'un acteur célèbre, fantasque, provocateur, charmant, touchant, séducteur. Un père, puisqu'il le fut, mais un enfant, toujours, puisque sans ça, les acteurs, c'est de la merde. Mao, la mère, la grande amoureuse de son Chabrol, une femme du Berry, d'une famille nombreuse pulvérisée aux quatre coins de la vie, la répartie aussi efficace qu'un travelling du hibou, comme on surnommait Chacha, du genre, à un âne batté qui lui demande si elle a fait sa carrière avec son cul, elle prend le temps de lui renvoyer « Non, monsieur, avec mon con ». Si vous trouvez que l'écriture de la fille a du style, demandez la mère. Ah, et puis Henri, le cinéaste, l'amateur des chiffres et des lettres, et des restaurants de famille, aux plats qui le sont aussi, avec bretelles et nœuds papes, on va pas s'emmerder à faire jeune parce que ça vieillit mal, il a bien raison. La Mao chronomètre les films que fait Henri, et la Zélie est l'assistante en chef. Et fait que tout se passe bien sur les films de son père adoptif. C'est donc une technicienne, comme on le disait. Mais je n'ai pas le temps, parce que il y a un chapitre quand même merveilleux sur le premier jour de tournage de son dernier film, mais le premier qu'il fait avec Gérard Depardieu. Ah ouais. Elle n'emmène pas large, la petite Zélie, etc. C'est formidable. Elle nous raconte ça comme une cinéaste, découpage, grosseur de plan, panneau, travelling. On y est dans ce premier jour fatidique, dans cette putain de première minute où ça passe, où ça casse entre les deux félins. Je vous le spoil tout de suite, ça passe crème, mais beaucoup de suspense. Et alors, au milieu de ce bazar, de toute cette vie aventureuse quand même, il faut le dire, hein, c'est effectivement une vie choisie et c'est formidable, il y a un chapitre OVNI, mais pas tant que ça, Libida. À l'occasion d'un réveil matinal délicat, où Zélie ne veut pas réveiller l'homme qui dort à côté d'elle pour ne pas provoquer sa mécanique érection matutinale qu'il ne saurait maîtriser qu'en l'enfonçant en son ventre, elle nous prend par la main pour nous dire son histoire sexuelle. Sa libida. Ce A qui remplace le O, parce que la sexualité des filles et des mecs, eh ben, c'est pas pareil. Chacun sa voyelle et on discutera ensuite. Ce sont des pages très très émouvantes sous la colère et parfois la désespérance, parce que comme vous l'écrivez très bien, les mecs et leur bite, c'est quelque chose quand même. Et je vous le confirme. Au bout de ce chapitre, il y a une mauvaise surprise, il y a un bad trip, un truc qu'on sait pas qu'on a. Et c'est très audacieux, soudainement, de parler de ça là. Et puis le livre continue de nous amuser, de nous émouvoir avec des portraits incroyables et la disparition de tous ces anciens que vous avez aimés. Notamment, je dois dire que le chapitre sur votre père est impossible à lire sans mouchoir. Il est intitulé cette fois « Mon père, virgule, en vrac ». Juste avant la fin, vous décidez de parler de vous, de cesser de témoigner de ce que vous voyez depuis la salle pour enfin monter sur scène. Et c'est un monologue, une longue phrase de 20 pages pour déclarer votre amour à votre mec. Et je souhaite à n'importe quel mec un jour d'entendre pareille déclaration de sa nana. Voilà, voilà, Zélie est compliquée, Zélie est un mystère et pas du tout, Zélie est très marrante parce que très tragique, mais Zélie aime parce qu'elle a été super aimée. Et ce livre aurait pu s'appeler « L'art d'aimer » ou encore « L'art de vivre », mais Chacha, Chabrol aurait dit « Oh non, l'art de vivre c'est vraiment cucu, ça fait réclame pour pavillon en banlieue ouest ».
Hippolyte Girardot, wow, qui a donc chroniqué Torremolinos de Cécile Mestre-Chabrol, paru chez Jean-Claude Lattès et que nous avons tous beaucoup beaucoup aimé. Ici, on a pris énormément de plaisir à le lire, sachez-le. À la une de Télérama, paru ce matin, une enquête sur les jeunes et leur rapport au cinéma. Les 15-30 ans jugent que le film du dimanche soir en famille devant la télé, c'est préhistorique. La télé sert à mater des films sur les plateformes, des films choisis en fonction du réalisateur et souvent à travers le tamis de MeToo. Alors, est-ce qu'ils fréquentent encore les salles, les jeunes?
Plus jamais aller seul au cinéma. Pas pour le film, mais pour ceux qu'on y fera. Parce que y'a pas de honte à aimer ça.
Michel Berger.
Pas de honte. Trop bien.
Mais ouais, c'est bon de le réentendre. Dossier de Télérama, donc, où on croise cette phrase, on ne naît pas cinéphile, on le devient. Mais est-ce que vous seriez pas en mesure de contredire cette affirmation?
On n'en est pas cinéphile, on le devient.
Ouais, non, vous êtes tombé dedans, obligé.
Ouais, mais moi, je suis devenue cinéphile à la mort de Chacha.
Ah ouais?
Ouais, avant, j'avais pas le temps, en fait. Je travaillais tout le temps. Et puis, jeune, il m'emmenait pas tellement au cinéma. C'est mon père qui m'emmenait au théâtre, beaucoup. J'étais beaucoup plus théâtrophile, on dit, je crois.
Ouais.
Que cinéphile. J'étais pas très cinéphile enfant et tout ça. C'est venu bien après la cinéphilie, en fait.
Ok.
Donc,
c'est pour ça que vous en parlez moins dans, voilà, parce qu'on s'est fait la réflexion. D'ailleurs, même dans les, quand vous faites les remerciements, vous remerciez,
des écrivains,
Goliarda Sapienza, Joe Strummer, James Ellroy, Liza Minnelli. Et puis, il n'y a pas de nom de cinéma.
Bah non, non, mais parce que moi je voulais être chanteuse d'abord, Michel Fugain et le Big Bazar, je voulais être Michel Fugain et le Big Bazar. Ensuite, Joe Strummer, c'est la conscience politique. Moi, je vivais à Quête Conti, dans un grand appartement bourgeois, mais j'écoutais les Clash. Alors, ça a fait que de moi aussi ce que je suis.
Mm-hmm.
Et puis ensuite, la littérature, les polars, beaucoup, pour comprendre le monde. Et ensuite, enfin, là, Goliarda Sapienza, il n'y a pas si longtemps, qui m'a... Alors, j'aime bien les il y a des écrivains qui disent ça m'a autorisé à écrire.
Waouh, c'est beau. On peut finir ce sujet comme ça donc.
J'ai un peu travaillé.
Carrément. Juliette Arnoux, vous aussi vous avez travaillé un questionnaire de Parjupi Proust pour notre invité.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10 du métier où il faut tout savoir et être de partout en même temps, 0 étant Franck Riester, notre ex-ministre de la Culture, et 10 étant Dieu, à combien estimez-vous celui de premier assistante réalisateur ?
480.
J'aurais dit pareil. Vous avez passé beaucoup de temps devant la téloche avec Claude Chabrol et vous avez plus ri en regardant Tourner Manège ou Bruno Carrette dans Nulle part ailleurs.
Ah, c'est dur. Bruno Carrette.
Ouais,
forever.
Ouais. Si vous aviez été actrice, quel super tournage auriez-vous aimé faire ? Apocalypse Now, n'importe quel film de Kubrick ou n'importe quel film de Piala ?
J'ai cru n'importe quel film de cul. n'importe quel film de. Oh là. Non, Piala.
Et voilà, en fait, c'est pas de bonne réponse. Hein.
Ouais, il n'y a pas de bonne réponse. Kubrick.
Kubrick quand même. Très bien. Votre père citait Brecht. Malheur au pays qui a besoin de héros. Est-ce que l'air du temps vous fait penser que définitivement votre père avait raison ?
Répétez la question.
La phrase de Brecht. Très bien. Votre père disait qu'actrice, c'est un métier de putain. Ouais. Est-ce que définitivement vous pensez que votre père avait raison ?
Non, il avait tort.
Il avait tort. Si le paradis, ça consiste à danser avec Ava Gardner et Goliarda Sapienza sur du Blondie, est-ce qu'on est d'accord pour y aller en sifflotant ?
Oh ouais, en chantant, oh ouais, c'est merveilleux.
C'est votre héroïne, Blondie.
Ouais, en héroïne, ouais, glamour. J'aurais adoré être glamour.
Vous devez choisir une collègue pour aller sur une île déserte. Ouais. Laquelle parmi ces bonnes femmes de Chabrol ? Marie-Chantal, Betty ou Violette ?
Betty. Betty pour boire des coups avec elle.
Ouais, boire des coups.
Ouais, moi j'ai un peu quelque chose de Betty, je crois.
Dans la peau de quel acteur ou actrice française aimeriez-vous passer une journée ?
Oh la vache ! Fanny Ardant.
Oh bah oui, bien sûr.
Bah ouais. Oui. J'ai les bagues.
Ouais. Une dernière question. Si vous pouviez faire disparaître une chose des plateaux de tournage, est-ce que c'est plus les réals qui utilisent leurs doigts pour imiter la caméra ou les parts de gâteau savane dans le catering ?
Les doigts.
Ah, on est d'accord, c'est très énervant.
Merci Juliette Arnaud. Et merci beaucoup Cécile Mestre-Chabrol qui publie donc Torremolinos. C'est paru chez Jean-Claude Lattès. On vous le recommande vraiment.
Merci à vous.
C'est à la fois profond et drôle et même très très drôle. Félicitations.
Vraiment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et merci les amis. Merci Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Jamil Le Schlag. Merci Hippolyte Girardot. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Et moi je vous dis pas à demain. Je vais me reposer un petit peu.
Oh et puis de toute façon moi je m'en fous. Débrouillez-vous.
Ouais, enfin, ouais ça je l'ai dit mais pas vraiment.